Bon, notre invité, il est là, Gabriel Giguère, analyste senior à l'Institut économique de Montréal. Comment allez-vous?
Je vais très bien, messieurs. Bonjour.
Oui, semaine dernière, la vérificatrice générale du Québec est tombée là, sur le dossier de la filière batterie et elle a constaté quand même beaucoup d'incongruités, beaucoup d'incohérences et même les CPA. Ça, c'est quand même particulier. L'Ordre des CPA Canada qui a dénoncé la gestion de 2,2 milliards de fonds publics. Qu'est-ce que ça nous dit?
Bien, ça nous dit que le gouvernement de la coalition Avenir Québec n'a pas fait ses devoirs. On le savait déjà depuis longtemps là, que ça avait été fait de façon assez broche à foin, mais je pense qu'on a vraiment la certitude ici avec le rapport de la vérificatrice générale. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu 2,2 milliards de dollars qui sont allés de l'avant en matière de subventions. Et sur tout ça, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est central, 91% de l'ensemble de cet argent-là a été autorisé par le gouvernement du Québec, donc par le gouvernement de la coalition Avenir Québec. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs dossiers, là, mais globalement, c'est pour 11 projets. 4 ont fait faillite, 2 sont suspendus, puis 3 connaissent des dépensements de coûts très importants. Donc, on est déjà sur 9 projets sur 11 qui vont pas bien ou qui ont simplement fait faillite. Donc, on comprend que vraiment, on a l'impression que le super ministre Fitzgibbon et le gouvernement de la coalition Avenir Québec, plus largement, a essayé de choisir les gagnants et les perdants. Et c'est la démonstration extrêmement concrète de l'incapacité du gouvernement québécois de tout gouvernement de pouvoir choisir les gagnants et les perdants, de l'incapacité de choisir les secteurs gagnants, hein. C'est pas le secteur de la filière batterie qui est gagnant au Québec. Et c'est surtout l'échec de la vision économique de la coalition Avenir Québec. Parce qu'on se rappellera que la nouvelle, je devrais pas dire nouvelle première ministre, plutôt la première ministre, Mme Fréchette, a présenté en 2025, novembre 2025, ça fait même pas un an, le plan ultra-interventionniste et nationaliste sur le plan économique de la coalition Avenir Québec. Et ce qu'on voyait, c'est de l'interventionnisme plus d'interventionnisme. Puis on était tous fiers de notre interventionnisme économique. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est non, regardez ailleurs, il n'y en a pas d'interventionnisme. Je pense que la vérificatrice générale met le doigt sur le bobo. Il y a beaucoup trop d'interventionnisme. Il en a eu trop et ça fait partie de l'ADN de la coalition Avenir Québec depuis des années.
Oui, on a vu que l'objectif était de créer 10 000 emplois avec la filière batterie. On est loin de ça. Mais on est parti de zéro. Comment... Si on veut expliquer aux auditeurs, là, c'était quoi l'idée derrière le fondement d'une filière batterie? On partait from scratch, qu'on appelle, là, on n'y avait rien ici au Québec. Là.
Ben, en fait, c'était vraiment, tout était dans la vision, hein, de se dire, ben, il n'y a absolument rien. On va mettre de l'avant une stratégie de développement économique autour de la création, comme tu as dit, Pierre, from scratch, hein, on part absolument de rien, d'une nouvelle filière. On va avoir les minéraux critiques, on va construire les batteries, on va essayer d'avoir le plus d'étapes dans la chaîne logistique pour la construction des batteries, des véhicules électriques. Et ce qu'on a constaté, d'abord, c'est qu'on n'est pas concurrentiel, mais le gouvernement ne peut pas commencer à créer de zéro à 100 une filière lorsqu'il ne sait pas si on va être concurrentiel. Là, au départ, on pensait probablement qu'on avait beaucoup d'électricité. Finalement, on a des problèmes en matière d'approvisionnement d'électricité. Après ça, on débloque des capitaux dans des entreprises qui n'ont que pour projet une vision, mais rien de concret. On l'a vu notamment avec Lyon Électrique où on essaie de faire un Frankenstein en matière de politique publique, en matière de subvention pour à la fois subventionner la construction d'usines, subventionner les autobus lorsqu'ils sont achetés par les commissions scolaires. Et malgré tous les efforts du gouvernement, on constate que c'est impossible. Donc aujourd'hui, les auditeurs, ce qu'on doit vraiment comprendre, c'est quand le gouvernement vous dit « voici vers où on va se développer économiquement, voici le secteur d'avenir », faut partir en courant, il faut se dire « attendez un petit peu, là, vous n'allez pas jouer avec mon argent puis envoyer ça », parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a environ 700 millions de dollars qui ont été dilapidés par le gouvernement de la coalition Avenir Québec. Et ça, je pense que c'est un message qui est très clair. On ne doit pas aller de l'avant avec l'interventionnisme. On va entendre beaucoup de discours dans les prochains mois. Non, on ne veut pas d'interventionnisme. J'invite les gens à regarder les chiffres, à lire le rapport de la vérificatrice générale qui nous dit que faut faire attention avec les paroles et faut regarder les résultats.
Oui, là, d'autant plus qu'on regardait un peu la filière batterie dans le monde. Les Chinois étaient en avant tout le monde, là, et les autres, ils finançaient ça depuis 10 ans. Donc, ce qu'on a eu comme idée, c'était de battre les Chinois sur leur propre terrain.
Ben, c'est un peu ça. Ce qu'on voulait faire, là, encore une fois, on part 10 ans trop tard, en quelque sorte. On essaie de tout créer de la part du gouvernement. Puis là, le problème qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu transférer le risque sur les Québécois. Le 700 millions perdus en est l'exemple très concret du transfert de risque. Puis en plus de ça, on se dit, bien, on va subventionner l'achat et on va mettre des tarifs douaniers. Puis ça, évidemment, c'est au niveau fédéral, mais ils ont probablement consulté les provinces également sur nos concurrents. Donc, concrètement, on va prendre l'argent des Québécois, on va jouer au casino avec, puis on va le perdre, le 700 millions. On va obliger les Québécois qui seraient peut-être intéressés à avoir des voitures chinoises moins chères à ne pas être en mesure de l'acheter au réel prix en étant de l'avant un tarif sur l'importation. Évidemment, on parle du fédéral ici, mais ça s'inscrit plus largement dans la vision fédérale également. Et donc, on a mis une succession de politiques publiques qui, au final, on perd de l'argent, on n'est pas concurrentiel, puis on dit aux Québécois quoi faire avec leur argent. Je trouve ça assez déplorable et j'espère encore une fois qu'on va se rappeler collectivement que ce n'est pas avec des subventions qu'on fait du développement économique. Ma collègue a fait une recherche assez intéressante dans cette vision-là l'année dernière qui démontrait essentiellement que si on faisait simplement éliminer les subventions aux entreprises pour réduire l'impôt sur les sociétés qui est à 11,5% au Québec aujourd'hui, on pourrait aller chercher du 4,75 à 5%, qui ferait en sorte qu'on serait ultra compétitif dans l'Amérique du Nord pour le Québec. Malheureusement, on préfère avoir des gouvernements qui choisissent les gagnants, mais malheureusement et paradoxalement, on choisit souvent les perdants en leur donnant de l'argent.
Ouais, on choisit les gagnants et on augmente aussi les règlements, la paperasse, la réglementation pour essayer d'encadrer les entreprises du mieux qu'on le peut, là, pour essayer de dire, je sais pas c'est quoi l'idée. Là, tu as le Parti conservateur du Québec qui lance une pétition là, pour essayer de voir où on peut couper de la paperasse. Est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'à chaque 4 ans, quand il y a des élections, les gouvernements nous parlent toujours de ça. Hein? On va éliminer la paperasse et on semble pas être capable d'aller là.
On semble pas être capable d'aller là. C'est un mélange de plusieurs choses. Il y en a beaucoup de paperasse et il faut vraiment s'assurer. Là, j'aimerais voir des projets de loi dans une dynamique de sunset clause ou plutôt de dire, voici, quand on met une réglementation, on est obligé de la revisiter dans 10 ans. Comme ça, on peut pas simplement avoir une addition constante qui fait en sorte qu'on rajoute des fardeaux supplémentaires sur les entreprises. Il y a des statistiques qui sont sorties qui sont franchement intéressantes. Quand on regarde le coût pour les PME au Canada, c'est à peu près 51 millions de dollars. En 2024, le coût de la réglementation pour les PME, c'est beaucoup d'argent. Puis la FCI estime qu'environ 18 milliards, ça représente de la paperasserie qui est soit inutile, soit redondante. C'est des centaines de milliers d'heures en matière de paperasserie réglementaire. Alors, l'initiative du Parti conservateur me semble être une initiative de bon sens. Puis évidemment, si c'était un autre parti qui le faisait, ben, c'est la même réponse que je vous donnerais parce que je pense que c'est important quand même de revoir la réglementation. Et j'ai regardé rapidement le site et je voyais quand même que la question de environnemental revient à le fameux BAP, qui est essentiellement, on parle d'un organe de pseudo-transparence, mais souvent ce qu'on voit plutôt, c'est que c'est un organe qui vient bloquer des grands projets. On peut penser à GNL Québec notamment. Donc, évidemment, chaque réglementation n'a pas le même impact sur l'économie quand on passe à un BAP qui vient vraiment freiner des investissements à coups de milliards de dollars par rapport à de la plus petite réglementation qui oblige un formulaire. Dans tous les cas, évidemment, ça peut venir freiner l'économie, mais il faut s'assurer de vraiment circonscrire les grandes réglementations qui font mal. Puis, je me permets quand même de faire un petit parallèle avec ce que j'ai vécu il y a 3 semaines en comité parlementaire à Ottawa. Au niveau des politiciens, un élément qui me décourage sincèrement, c'est quand on nous avait demandé, oui, mais on va mettre de l'avant une réglementation sur le méthane plus sévère. Est-ce qu'on va créer des emplois avec ça? Alors, on a un politicien, évidemment, c'est au fédéral, mais je pense quand même que cette façon de réfléchir-là, elle est partagée par plusieurs. On pense qu'en créant de la réglementation, on crée des emplois. Ce n'est pas nécessairement faux parce que ça va être au niveau juridique, mais on ne crée pas de richesse économique. On crée des bâtons dans les roues où on a besoin d'experts qui viennent arrimer les activités de l'entreprise avec la réglementation gouvernementale. Ce n'est pas comme ça qu'on crée de la richesse pour les Québécois ou pour les Canadiens. Donc, c'est une vision des politiciens qui est absolument à proscrire. Malheureusement, je pense qu'elle est beaucoup trop répandue dans la classe politique d'aujourd'hui.
Et le résultat, la crise de l'investissement au Canada, on a eu les chiffres la semaine dernière. L'investissement privé, notamment, n'est pas présent. On est absent. François Legault en faisait, d'ailleurs, il voulait avoir un compteur de l'investissement privé sur son bureau. Il parlait de ça à un moment donné en 2018, lors des élections. On est loin de ça, là.
On est très loin de ça. En fait, année après année, on le constate à quel point. Puis là, le Québec, c'est particulièrement triste, j'ai envie de dire, notre situation, même si le Canada fait pas très bien. Le Québec, c'est pire. En fait, qu'est-ce qu'on voit au Québec? C'est qu'on a très peu d'investissement par travailleur. Donc, de l'investissement qui est non résidentiel, notamment en machinerie. Concrètement, ce que ça veut dire que les travailleurs québécois, comme les entreprises investissent moins parce que notre cadre fiscal est pas assez concurrentiel, notamment notre cadre réglementaire, on n'est pas capable d'être outillé avec les meilleurs outils. Donc, c'est pas qu'on est paresseux collectivement, c'est qu'on peut pas travailler à la pleine capacité qui est la nôtre si on avait tous les outils nécessaires. Un exemple très concret, là, pour bien imaginer, si vous pouvez, avec une certaine machine, fabriquer un chandail par heure, puis qu'avec une autre machine qui coûterait un peu plus cher, vous pouvez en faire deux ou trois, bien, c'est évident que la valeur ajoutée serait plus élevée. Mais ici, on n'a pas accès à ça parce que les entreprises investissent moins, notamment à cause du cadre réglementaire et fiscal. Et ce qui s'est passé dans les dernières décennies, c'est qu'auparavant, le Québec est environ dans la moyenne de l'OCDE en matière d'investissement par travailleur, le Canada un petit peu plus élevé. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est vraiment un appauvrissement relatif, pas juste de la qualité de vie, et c'est entre autres, pas uniquement, mais entre autres, lié au fait que la moyenne de l'OCDE a beaucoup augmenté, mais pas celle du Québec. Donc concrètement, quand on se compare à d'autres pays de l'OCDE, on s'est appauvri relativement, parce que qui dit moins d'investissement non résidentiel
moins de richesse, moins de création de richesse, ouais, c'est ça.
Moins de création de richesse et moins de création. Si vous créez moins de richesse, votre entreprise ne peut pas vous payer aussi cher que votre voisin qui crée plus de richesses, ouais. Mais ce n'est pas de votre faute parce que vous n'avez pas accès aux meilleurs outils possibles. Donc, il faut réfléchir à ça et comment le gouvernement peut faire en sorte de renverser la balance. Et je pense que c'est là que c'est important de comprendre que c'est en réduisant le fardeau fiscal, les noms, en prenant l'argent des entreprises et des Québécois aussi pour le donner à d'autres entreprises en essayant de choisir le gagnant et le perdant. Donc, c'est une vision économique beaucoup plus large que malheureusement le gouvernement du Québec n'a jamais été capable de mettre de l'avant dans les dernières années.
Mais qu'est-ce qui explique ça, qu'on soit en retard par rapport à la productivité? C'est-tu le fait que nos PME, l'âge moyen de détention des propriétaires, c'est-à-dire les propriétaires de PME veulent vendre puis ils veulent pas investir dans le PME, veulent passer ça à quelqu'un d'autre puis ils veulent pas investir? C'est quoi? Comment on explique ça?
Ben, je pense que plusieurs facteurs. C'est sûr qu'un des facteurs, c'est qu'on a un secteur des petites et moyennes entreprises très grande au Québec par rapport à d'autres endroits, ce qui fait en sorte que ben, y a peut-être moins d'investissement en capital. Donc, moins de productivité. Il peut y avoir un effet ici là du fait qu'il y a une part importante des PME au Québec. L'autre chose, c'est également, encore une fois, si vous investissez moins en matière de non-résidentiel, surtout au niveau de la machinerie et de l'équipement, ce qui est le cas au Québec par travailleur, ben, encore une fois, vous allez avoir accès à de moins bons outils, donc vous allez être par extension moins productif. Puis là, les raisons de ça, ben, c'est souvent une question fiscale et réglementaire, pas nécessairement uniquement.
La paperasse. La paperasse aussi.
Absolument. Ça fait partie du réglementaire. Il y a aussi le fait qu'encore une fois, comme c'est plus de PME qu'ailleurs, ben, ça fait en sorte que vous avez peut-être moins de capacité d'investissement en capital. Donc, il y a plusieurs raisons. Mais je pense qu'une chose qui devrait être faite, c'est définitivement de réduire la paperasse, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, réduire également le fardeau fiscal pour s'assurer que ce soit plus attractif. Parce qu'en parallèle à ça, oui, on a moins d'investissements pour les entreprises d'ici par travailleur, mais si on va plus largement, puis on pense également aux investissements directs étrangers, donc les investissements qu'on est capable d'attirer de l'étranger, ce qu'on constate, là, c'est plutôt à l'échelle canadienne, mais le Québec est dans cette sauce-là également, c'est qu'on n'est pas capable d'attirer autant d'investissements que les Canadiens investissent ailleurs. Ça, ça augmente de plus en plus. Le stock en capital, le gap, c'est vraiment élargi dans les 10 dernières années entre ce que les étrangers ont en matière de capital au Canada et ce que les Canadiens ont à l'étranger. Et on parle de centaines de milliards de dollars d'écart, notamment pour les États-Unis. Donc ça, également, là, c'est une lumière qui doit... le voyant rouge doit s'allumer parce que non seulement nos entreprises d'ici investissent moins, mais ailleurs, on investit moins au Canada que les Canadiens investissent ailleurs. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir là, du côté à la fois du gouvernement du Québec, mais aussi du gouvernement fédéral.
Et Mark Carney, dans toute sa... Tu sais, on l'a vu là, des derniers mois, parti à l'étranger, veut amener des investissements au Canada, mais il s'est fait dire la semaine dernière que une des principales... comment on dit ça? Quand les financiers de l'extérieur veulent venir investir au Canada, c'est parce qu'on est à la porte des États-Unis. Donc, l'idée, c'est on va venir investir au Canada, mais parce que vous avez accès au marché américain. Pas parce qu'on vous aime nécessairement davantage que qu'ailleurs. Là. Donc, c'est la proximité avec le marché américain, il faut en profiter de ça aussi.
Absolument, il faut miser sur ça, là, tout à fait. Je veux dire, c'est un avantage comparatif qu'on a avec d'autres pays. On est collé sur le marché américain, puis je pense quand même qu'on peut être attractif. Évidemment, on peut penser au marché américain, c'est une chose. L'autre chose également, c'est toute la question de l'énergie. Je pense que Mark Carney l'a compris dans sa volonté affichée il y a 3 semaines, c'est-à-dire, ben, on a un cadre réglementaire qui est absolument inadapté, qui permet pas de construire de grands projets énergétiques. On va le réformer. On aurait aimé le voir plus tôt, mais ça va aller en automne pour voir le nouveau cadre réglementaire pour l'évaluation environnementale. Mais ça, c'est un message clair. C'est de dire, regardez, on le sait qu'on a un potentiel d'exportation, notamment de gaz naturel. Il faut construire plus de gaz, d'usines et de terminales de gaz naturel liquéfié. On va changer la réglementation. Et ça, déjà, on le sait, là, l'Inde veut plus de gaz naturel liquéfié. La Corée a parlé récemment de sa volonté d'investir également dans le gaz naturel liquéfié.
Donc, on ne veut pas aller là au Canada. On dirait que le Québec ne veut pas aller là du tout.
Le Québec, je suis totalement d'accord et c'est très malheureux parce que c'est une réelle mine pour créer de la richesse. Donc ça, c'est extrêmement complexe à comprendre. Je pense qu'au Canada, on commence à changer d'attitude, enfin après 10 ans.
Ouais.
Évidemment, il va falloir que les bottines suivent les babines, mais on sent quand même qu'il y a un changement de dynamique. Au Québec, on est borné. On se rappellera qu'il y a 2-3 semaines, la ministre Smith de l'Alberta est venue rencontrer Mme Fréchette.
Ouais.
Et on a discuté, mais c'était très, très tiède de la première ministre québécoise. Puis on fait une déclaration, coup-ci, coup-ça, puis après ça, on essaie d'enterrer cette rencontre-là pour être sûr de ne pas parler de développement des ressources naturelles. Et ça, bien évidemment, c'est navrant parce que on pourrait créer beaucoup de richesses, des emplois très bien rémunérés, une augmentation également de l'activité économique au Québec, des revenus du gouvernement du Québec dans un contexte déficitaire de
8,6 milliards. Ils ne veulent pas aller là. Non, ça ne les intéresse pas. Ils ramassent, par exemple, la péréquation de l'Alberta, entre autres, là.
Ben, c'est un peu ça qui est très, très, très dommage. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec, à l'heure où on se parle, là, si on le dit concrètement, ils n'ont pas d'incitation économique à exploiter leurs ressources naturelles parce qu'ils vont chercher le fruit de l'exploitation des ressources naturelles de quelqu'un d'autre.
Exact.
Donc, concrètement, pourquoi on le ferait chez nous si on peut aller chercher l'argent de ceux qui le font? C'est une vision qui, je trouve, est très navrante. Je pense qu'on a nos richesses à nous, on est capable de les créer. Mais voilà, donc j'espère quand même qu'on va passer outre ça et que ça va être également dans le débat des élections, hein, dans la débat électoral. Parce
on ne veut pas aller là. On dirait que ça ne nous intéresse pas. Les gens ne veulent pas parler de ça. Hein.
Au Québec, c'est particulier. On parle beaucoup de culture, beaucoup de nationalisme. Je ne dis pas que c'est correct ou pas, mais ça fait en sorte que certains enjeux comme ça, qui je pense sont extrêmement importants sur la question économique, on se ferme un peu les yeux. C'est pas un enjeu qui est central pour plusieurs. Et ça, c'est un petit peu malheureux parce que ça nous permet pas de jaser, de débattre des enjeux qui créent de la richesse au Québec. On espère que ça va changer cette année. Malheureusement, je pense qu'on va le savoir dans quelques mois.
Ouais. Gabriel Gigard, l'Institut économique de Montréal. Toujours un plaisir.
Un plaisir partagé.
Merci. Puis Bob, pendant ce temps-là, l'économie est en récession.
Ça va bien.
Ça fait que, tu sais, c'est des années, tu sais, toutes les 10 dernières années, là, de réglementation, à un moment donné, ça frappe un mur. On est dedans. Mais c'est capoté qu'on ne veut pas aller chercher notre gaz naturel en dessous de nos pieds. On en a. Et on veut aller chercher la péréquation ailleurs.
Ça, c'est la vertu, hein, Pierre? La vertu de l'environnement. Puis nous autres, non, on n'est pas comme ça.
On est meilleurs.
Gens propres. Ouais, on est mieux que les autres.
C'est ça.
Fait qu'on est pauvres.
C'est particulier au Québec, hein, comment on veut... On n'a pas de vision. Je sais pas, économique. Tu parles avec du monde. Ils sont très, très, mettons, artistes.
Mm-hmm.
Parfait. Mais dès que tu commences à jaser d'économie puis de création de richesses, là, t'es...
Oh, on perd tout le monde.
Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien. Là, c'est le blackout total. C'est le néant.
Ça, c'est-tu pourquoi?
La matrice.
Parce qu'au Québec, un riche, c'est un crasseur.
Ouais, mais on va falloir sortir de là.
Ben, je pense que oui.
On va falloir sortir de là. On est voués à être des porteurs d'eau, là, c'est ça?
C'est la mentalité.
Voilà. Après la pause, on jase de santé. On a un médecin avec nous autres. Là, je sais pas si tu as vu des listes d'attente aussi, guichet d'accès à la première ligne. Désolé, pas de rendez-vous médical disponible.
Arrangez-vous.
On revient.
Couture dans le mid. Radio. X.